Bonjour, bienvenue sur Microsoft Virtual Academy. Aujourd'hui, on vous propose de débuter la programmation parallèle avec le framework .NET et d'aller faire un tour du côté de la Task Parallel Library, nouvelle librairie disponible depuis le framework .NET 4.0. Alors la programmation parallèle, ce n'est pas un sujet nouveau. Il existe depuis très très longtemps dans le domaine des supercalculateurs et dans les domaines plus précisément du HPC, du High Performance Computing. On avait depuis les années 82, vous avez ce secret à gauche, ici avec 842 mégaflops, 2 à 4 processeurs. Le dernier cré, c'est plus de 560 000 cœurs et une puissance théorique de 27 112 teraflops par seconde, c'est-à-dire des opérations sur des flottants par seconde. Mais on va même encore plus loin puisque vous avez ce dernier ordinateur-là, qui doit être depuis l'année dernière le numéro 1 au top 500, où il y a plus de 3120 cœurs, avec une puissance, encore une fois théorique, de 54 902 teraflops par seconde. Ah, il y a un petit nouveau depuis quelques années qui arrive, c'est le GPU, c'est-à-dire un calcul directement à partir de cartes graphiques et qui vient concurrencer justement le CPU. Alors c'est pour quoi faire hein, ces gros calculateurs? Ben, c'est pour des domaines bien précis, dans la chimie, dans la pétrochimie, pour aller vérifier les ressources qu'il y aurait dans le sous-sol. Dans le monde automobile, pour faire des crash tests, par exemple, dans le monde aéronautique, pour tout ce qui est mécanique des fluides, dans le monde météorologique, bien évidemment, pour prévoir le temps qu'il fera demain, dans le monde même aérospatial, hein, on peut très bien utiliser les supercalculateurs pour pouvoir calculer dans un moteur d'une navette spatiale, par exemple, l'incidence d'une flamme par rapport à une autre. Donc, vous voyez, ces supercalculateurs sont véritablement utilisés pour croquer des nombres. Mais jusqu'à présent, ce domaine-là était réservé à un petit nombre d'experts, car c'est extrêmement compliqué de développer en parallèle sur plusieurs milliers de cœurs. Mais en 2005, on a eu affaire, nous, à un véritable Big Bang. Nous, les développeurs, qui n'avons pas forcément l'habitude de travailler sur ce type de supercalculateur. En effet, la physique a complètement changé les règles. Intel avait prédit que s'il restait sur l'architecture Pentium 4, la dissipation thermique du processeur aurait été équivalente, dans les années 2015, à la dissipation thermique qu'on a à la surface du Soleil. Donc on a affaire là en 2015 à un véritable mur de chaleur qu'on ne peut absolument pas dépasser et que les fondeurs ne pouvaient pas dépasser. 2005, c'est donc l'avènement du multicœur. En effet, les fondeurs ont constaté la chose suivante. On part d'un processeur avec, peu importe sa fréquence max, mais avec un indice d'origine de 1.0. Si on overclock le processeur de 20%, on s'aperçoit qu'on a une consommation qui augmente drastiquement à 1.73, alors que sa performance n'augmente pas énormément. A l'inverse, si on underclock le processeur de 20%, on s'aperçoit que sa consommation diminue pratiquement de moitié, alors que sa performance ne diminue pas énormément. En rajoutant un dual cœur sur la puce. La consommation, elle, reste peu ou prou la même qu'une consommation monocœur. Par contre, on s'aperçoit que la performance augmente considérablement. Mais attention, ceci n'est qu'une puissance théorique. Donc en 2005, c'était une puissance théorique parce que la majorité des applications ne savaient pas tirer profit du multicœur. On voit donc apparaître en 2005 l'avènement de ce doublement de cœurs sur nos puces. En 1965, M. Gordon Moore, donc un des fondateurs d'Intel, avait prédit un doublement des transistors tous les 2 ans sur la puce. Donc, pratiquement une augmentation double de la puissance des puces tous les 2 ans. On le voit ici sur ce graphique. Depuis 1970, le nombre de transistors a effectivement grimpé en flèche jusqu'à aujourd'hui, 2014, où on arrive avec des Core i7 de chez Intel à 1,4 milliard de transistors gravés, cette puce, à 22 nanomètres. Ce qu'on voit donc apparaître depuis 1970, c'est que la puissance a effectivement augmenté, mais qu'on stagne en 2005 et nos processeurs stagnent en puissance aussi. On ne monte plus en fréquence. Gordon Moore avait donc prédit peut-être le doublement de transistors, mais il n'avait peut-être pas prédit le doublement de puces sur le die ou sur le processeur. En 2005, on arrive donc à un véritable point de rupture où Herb Sauter disait très justement: The free lunch is over. Le repas gratuit, c'est fini. Alors ça veut dire quoi ce free lunch is over? Ben, ça veut dire tout simplement que votre application Monothread, sans retoucher le code, tournait plus rapidement en 1990 qu'en 1985, gratuitement tirait profit également en 1995 de l'augmentation de la puissance de la machine, tournait plus rapidement en l'an 2000 et arrivait à un point de stagnation en 2005, et même peut-être de temps en temps tournait moins rapidement parce que, comme on l'a vu au préalablement, les fondeurs ont underclocké leur processeur. Néanmoins, votre application, elle est monothread, et si le système, en fait, le processeur s'aperçoit qu'il y a une exécution monothread, il va enclencher ce qu'on appelle un turbo boost pour artificiellement augmenter la vitesse du processeur. Donc, vous allez pouvoir tirer profit de cette vitesse supplémentaire, mais que de 10%. Votre application sera en gros plus puissante de 10%. Sur les systèmes multicœurs, donc il existe une réserve de puissance donc phénoménale. Il faut que les applications passent en parallèle. Mais cette puissance, hein, ne sera disponible que si nous, développeurs, on se met à développer en parallèle. Alors on sait que la programmation parallèle, c'est un art difficile, hein, difficile à maîtriser, réservé jusqu'à présent à un groupe de spécialistes effectivement d'élite, avec des modèles qui ne sont pas forcément super connus en termes de développement, avec des problèmes véritablement nombreux, des problèmes qui sont, ou des exceptions qui sont dites non déterministes. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver. D'habitude, on développe en mode séquentiel sur un seul processeur. Mais là, on va avoir des problèmes qui vont arriver simultanément sur 2, 3, 4, 6 processeurs. Donc des problèmes de partage mémoire extrêmement importants et qui peuvent arriver n'importe quand. On a constaté d'ailleurs depuis 2005, et aujourd'hui on est en 2014, que on n'a pas véritablement envie de développer en parallèle parce que ça nous rajoute énormément de codes supplémentaires propres au parallélisme. Les développeurs, hein, comme vous, comme moi, on devrait se concentrer essentiellement sur nos fondamentaux, sur notre code fonctionnel. Toute la plomberie concurrentielle multithread, à la limite, on s'en passerait bien. On a constaté aussi, et d'après ce qu'il nous disait, il voulait un modèle simple d'utilisation. On verra que le modèle de thread est un petit peu compliqué à utiliser. Pourquoi développer en parallèle? On l'a bien vu, c'est surtout pour des questions de performance, mais également pour éviter qu'une interface de l'application soit figé, alors que je possède 4, 8 heures avec 16 Go de mémoire. Ça ferait quand même pas sérieux dans une application. C'est d'autant plus exacerbé qu'aujourd'hui on est sur du tactile avec des mobiles, avec des tablettes, et le tactile, on n'attend plus une seconde ou 2 secondes que quelque chose se fasse. Dès qu'on appuie sur un bouton ou qu'on a une action à avoir, on veut que ça réagisse immédiatement. Donc développer en parallèle ou en mode asynchrone devient une nécessité. Alors si je décide de développer en parallèle, c'est un véritable état d'esprit dans lequel il faut être. En effet, il faut penser parallèle. On pense parallèle bien avant l'écriture de la première ligne de code. On ne pense pas en parallèle à la fin de l'écriture de son application. C'est véritablement un état d'esprit. Alors, par exemple, si je voulais paralléliser ce type de boucle, c'est une boucle très simple qui affiche à l'écran une fractale de Mandelbrot ligne par ligne. Si je voulais la paralléliser avec les objets Windows et les objets du framework .NET que j'ai aujourd'hui, il faudrait que je vienne engluer mon code fonctionnel dans du code propre au parallélisme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il est préférable maintenant d'utiliser des systèmes et des librairies de plus haut niveau. D'ailleurs, Monsieur Edward Lee, qui a plus de 25 ans de développement parallèle derrière lui, disait très justement qu'on ne peut pas faire confiance à ce type de code parce qu'on ne sait pas s'il va. Déjà, s'il n'est pas plein d'erreurs de programmation, et s'il va pouvoir monter à l'échelle lorsque je vais passer de 2, 4, 6, 8, 10, 12 cœurs sur une puce. À la place, utilisez donc des constructions de plus haut niveau pour simplifier justement le développement parallèle. Et c'est tout le rôle de la Task Parallel Library, ce qu'on va voir dans les prochains épisodes de ce cours consacré au développement parallèle, qu'on va pouvoir par exemple ici très simplement utiliser des algorithmes comme le parallèle point fort, où je vois que mon code n'est plus englué dans du code propre au multithreading, mais sorti justement de cette partie-là, tout le code de multithreading est derrière la méthode fort et ce n'est pas à moi de le gérer. Ce que j'ai à gérer, c'est que mon algorithme à l'intérieur de ma boucle soit parallélisable, bien évidemment. Mais on y reviendra dans d'autres cours. C'est la solution à notre problème de développement parallèle. Dans une prochaine vidéo, il va falloir quand même qu'on aborde un certain nombre de mécanismes propres à l'OS et propres au système d'exploitation. Et ces mécanismes, ce seront les processus et les threads de Windows.